My gang will get you.
Les enfants du Nouveau Monde, une émission de Céline Elodie. Même si on nous en parle très peu, le monde est rempli de belles choses. Des humains en marche, des initiatives pleines de bon sens et d'humanité. Nous sommes tous une étincelle de cette transformation. Avec les enfants du Nouveau Monde, partons à la rencontre des terriens d'ici et des humains de là-bas, des enfants de la Terre qui aiment notre planète, qui croient en leurs rêves et qui créent un monde meilleur par leurs actions quotidiennes. Aimer l'humain, humer l'humus, humilité, avec humilité. Bienvenue sur Terre, enfants du Nouveau Monde.
Hey man, you want girls? I show you a good time. This place has everything. Come on, I show you.
Salut les enfants du Nouveau Monde. Ça fait longtemps, les vacances ont été longues et on se retrouve pour parler du cerveau. On va parler de notre cerveau parce qu'on connaît souvent assez peu son fonctionnement. Et aujourd'hui, bien, avec les neurosciences notamment, on commence à découvrir pas mal de choses très intéressantes sur le cerveau et qui peuvent être utilisées aussi bien dans le cadre de l'éducation par exemple. On voit un petit peu mieux comment fonctionne le processus d'apprentissage, mais on peut également utiliser ces découvertes pour optimiser les performances de notre cerveau, que ce soit pour fonctionner mieux dans la vie, que l'on soit dans notre milieu professionnel, dans notre milieu familial, dans notre milieu relationnel également, affectif. Et on se rend compte aussi que ces découvertes vont permettre peut-être de guérir certains troubles psychiques, physiologiques, etc. Et pour cela, je suis aujourd'hui en compagnie de Dominique Huette, qui est praticien en neurofeedback. Salut Dominique.
Bonjour, Céline Elodie.
Je suis ravie donc de t'accueillir pour discuter de ça, parce que je trouve ça assez passionnant. Tu m'as permis en plus de venir faire une séance de découverte de ce neurofeedback, comme tu as l'habitude de le pratiquer sur Nîmes. Et j'avoue avoir été assez bluffée. Ça paraît très simple, et pourtant, ça, moi en tout cas, ma séance m'a emmenée dans un état de profondeur et de connexion à moi-même très puissant. Voilà. Alors, peut-être on va commencer à expliquer qu'est-ce que c'est ce neurofeedback. Ça fait déjà une soixantaine d'années que ça est apparu, c'est ça?
Oui, absolument. Écoute, en préambule, moi je voudrais dire que je suis ravi de te retrouver. Parce qu'on a passé un moment qui était fort agréable. et j'ai apprécié tout le débrief que tu as pu faire après la séance qu'on a fait ensemble, qui t'a donné l'occasion de découvrir quelles étaient les fonctionnalités, les possibilités. Au travers d'une séance, c'est pas nécessairement révélateur du travail qui peut se faire, puisque c'est un travail qui se fait à répétition, puis sous forme d'un entraînement.
Sur plusieurs séances.
Voilà, hein, absolument. Ouais. L'échange qu'on a eu à la suite de cette séance, je crois que nous a nourris tous les deux et nous a permis de compléter notre façon de percevoir pas mal de choses. Mm-hmm. Et c'est à chaque fois une expérience nouvelle que j'apprécie particulièrement, tout comme celle que je mène en cabinet, puisque j'exerce à Nîmes, oui, dans un cabinet privé, et que j'interviens aussi dans le milieu professionnel. Mm-hmm. Okay, et également dans une structure aussi un peu différente mais plus éloignée, qui est dans le milieu sportif.
Ouais.
Donc le neurofeedback, c'est quoi? Trouver la définition la plus simple, ça serait dire que c'est une technique de pointe qui est issue de neurosciences et qui s'appuie sur les capacités naturelles d'autorégulation du cerveau, voilà, et qui permet d'améliorer le fonctionnement et aussi les capacités du cerveau. Voilà, c'est une technique qui a vu le jour il y a un petit moment déjà. Maintenant, ça fait 61 ans, okay, en 58, dans une unité de recherche aux États-Unis, dans l'Université de Chicago, et qui a fait un gros bout de chemin depuis pour aboutir à un déploiement d'une technologie qui, aujourd'hui, a un niveau extrêmement élevé d'efficacité de puissance, parce que le terme n'est pas approprié, mais
D'efficience, ouais.
D'efficience et de de capacité à couvrir un éventail de difficultés, de troubles de plus en plus large.
Oui, tout à fait, parce que alors donc sur ta plaquette, hein, tu parles d'une méta-étude qui a été menée en 2014 sur 4 millions d'heures de séances de neurofeedback. Donc ça a été fait dans le monde entier, j'imagine.
Alors l'étude, elle a été particulièrement concentrée parce qu'en fait, le réseau de praticiens aujourd'hui se compose d'environ 10 000, un peu plus de 10 000 praticiens qui sont essentiellement regroupés en Amérique du Nord et en Europe. Donc la grande partie de cette étude repose sur une méta-étude donc qui a été menée en Amérique Amérique du Nord.
Ok, très bien. Et donc, ça a montré un taux de satisfaction de 80% sur, effectivement, un éventail très large de différents troubles. Alors, ça va des troubles physiologiques, type insomnie, épilepsie, des maladies type Parkinson, Alzheimer, troubles d'audition, des choses comme ça. Les troubles anxieux, donc phobie, stress, panique, ce genre de choses. Les troubles cognitifs, mémoire déficiente, troubles de l'attention, hyperactivité. Les troubles de l'humeur, donc dépression, burn-out, troubles bipolaires, stress post-traumatique. Des troubles du comportement, addiction, agressivité, anorexie, boulimie, ce genre de choses. Les addictions,
ouais, la liste est longue,
c'est.
Hein.
Et ouais, la liste est très longue. Et les troubles de l'apprentissage et du développement type dyslexie, et même sur l'autisme, et des déficits de performance. Donc, on voit bien qu'effectivement, ce neurofeedback a l'air d'être vraiment un petit miracle, là, qui agit sur des tas de domaines de notre vie. Donc, on imagine bien, puisqu'effectivement, le cerveau a l'air d'être quand même un relais central entre tout notre fonctionnement interne et puis l'externe, hein, j'ai l'impression.
Moi, je bannirais le terme
le
de miracle.
Ah oui.
Parce qu'en fait, cette technique repose vraiment sur des recherches qui ont été développées en neurosciences, qui ont fait l'objet de vérifications et d'études multiples.
Oui.
Et du coup, le principe est que le cerveau a une énorme capacité à pouvoir s'autoréguler à partir du moment où lui envoie, lui adresse une information très précise sur son niveau d'activité et qu'il est en capacité, recevant cette information précise, d'engager des processus qui vont lui permettre d'améliorer son fonctionnement et d'arriver à un équilibre de fonctionnement qui permet d'évoluer dans un état de bien-être et de sortir de difficultés plus ou moins soutenues, ponctuelles ou qui durent, qui sont installées depuis longtemps.
Donc s'il y a un miracle finalement, le miracle c'est le fonctionnement naturel du cerveau, c'est qu'en fait ce cerveau est toujours en vie de s'améliorer et de développer sa propre autorégulation, c'est bien ça?
Voilà, alors parmi les leviers qui interviennent dans la pratique du neurofeedback, il y a trois leviers principaux qui sont la neuroplasticité, le principe d'autorégulation et le fait que le cerveau est en perpétuelle recherche de nouveaux apprentissages. La neuroplasticité, notre cerveau, là, tous les deux, depuis qu'on est en train d'interchanger, je suis attentif à la question que tu formules et du coup, ça génère une réflexion. Et au fur et à mesure de notre échange, le fonctionnement intérieur de notre cerveau a fluctué.
Mm-hmm.
Et en clair, il n'est plus exactement dans le même état de fonctionnement.
Oui, ça change à chaque seconde.
Voilà.
Obligé de s'adapter. Oui.
En clair, le cerveau est l'entité dynamique la plus complexe de l'univers connu. Le cœur, lui, a des fonctions extrêmement précises qui sont celles de générer l'afflux sanguin et de gérer la pression artérielle. Mais le cerveau a une quantité phénoménale de fonctions qui sont en perpétuelle évolution et qui fluctuent en fonction de l'environnement extérieur.
Ouais, c'est pour ça que je parlais de relais. C'est qu'en fait, il est un relais avec tous nos fonctionnements internes en lien avec le monde externe. Du coup, c'est extrêmement effectivement complexe toutes les informations qu'il a à gérer. J'ai lu dans tes documents que donc nous avons 100 milliards de neurones.
Ouais.
Et quand tu parles de neuroplasticité, finalement, ce sont ces neurones qui s'agencent les uns avec les autres et qui peuvent, à chaque milliseconde, en fait, changer les connexions. C'est-à-dire, on se connecte ici, on se déconnecte, on se reconnecte plus loin. Et c'est tout le temps en évolution, cette chose-là.
Oui, et c'est ce qui rend le cerveau passionnant, d'ailleurs.
Ouais.
C'est ce qui fait qu'il n'y a pas un cerveau qui fonctionne de la même manière.
Ouais.
Il y a 7 550 millions d'êtres humains sur la planète.
Mm-hmm.
Il y a donc autant de cerveau et c'est ce qui aussi détermine l'unicité, la typicité de chacun.
Mmh. Thank you.
Vous écoutez Les Enfants du Nouveau Monde, où nous plongeons aujourd'hui dans les méandres du cerveau avec Dominique Huette, qui est praticien en neurofeedback, une technique d'autorégulation du cerveau. Le cerveau est en effet l'entité la plus dynamique de l'univers connu, et ce, grâce à son incroyable neuroplasticité.
En parlant des neurones, les neurones sont les cellules fonctionnelles du cerveau. Ce sont ces cellules-là qui permettent de traiter de l'information et de restituer éventuellement une action, une pensée ou une émotion. Et ces cellules s'interconnectent en permanence. C'est-à-dire qu'un neurone, c'est une petite cellule, il y en a 100 milliards, donc imagine la taille d'un neurone contenu dans une boîte crânienne. Et il peut y avoir plusieurs points de contact sur cette cellule qui va intercommuniquer avec plusieurs autres cellules, donc plusieurs autres neurones. Le principe est le suivant, c'est que chaque neurone génère un afflux électrique qui va lui générer un afflux biologique qui va faire que les neurones s'interconnectent et se transmettent, ce qu'on appelle des neurotransmetteurs, okay, qui vont pouvoir favoriser une action, une réflexion, une pensée. Et donc, quand on parle de neuroplasticité, ça implique qu'il y a un neurone qui va s'interconnecter sur 5 points de contact avec un autre, mais dans la seconde d'après, il peut s'interconnecter que plus que sur 3 points de contact.
Voilà.
Et puis l'autre qui va faire le relais va s'interconnecter de manière différente. Donc, c'est
extrêmement
fluctuant. Et l'idée, c'est que du coup, ça nous permet de nous adapter à des situations assez rapidement.
Alors, comme tu disais, il y a donc ces 3 leviers. Donc, la neuroplasticité, on a bien vu ce que c'était. Le deuxième, c'est l'autorégulation, ce qu'on peut appeler aussi l'homéostasie, c'est-à-dire que du coup, le cerveau va essayer de fonctionner de façon optimale avec ce qu'il a à gérer.
Alors, le principe de l'homéostasie, c'est de maintenir un équilibre de viabilité.
Voilà, c'est bien ça.
C'est le même principe qu'on retrouve dans la température du corps humain. Le cerveau va réguler l'activité métabolique pour faire en sorte que cette température se maintienne. De la même manière, dans la pratique du neurofeedback, le neurofeedback s'appuie sur le principe que l'autorégulation peut être favorisée quand les informations qui sont envoyées en direction du cerveau sont justes et que le cerveau peut les interpréter en identifiant qu'il y a un dysfonctionnement et que ce dysfonctionnement, il peut y remédier.
Et le troisième levier, donc, la recherche de nouveaux apprentissages, c'est-à-dire que le cerveau, il cherche toujours à apprendre et à développer de nouvelles, peut-être, capacités. Le cerveau et la vie en général, je pense. Alors voilà, là, il faut qu'on aborde donc ce cœur de la question, parce que qu'est-ce que ça veut dire neurofeedback ?
Alors, le neuro, c'est
les neurones.
Le terme des neurosciences, les neurones. C'est un terme qui est apparu dans les années 60.
Et feedback, c'est le retour.
Ouais.
C'est bien ça,
hein,
le retour d'information. Si bien que pour apprendre, on a besoin de ce retour d'information.
Ouais.
C'est d'ailleurs grâce à ça qu'on apprend. C'est-à-dire que l'enfant se met debout, hop, s'il n'a pas bien son équilibre, oh, bah, il va tomber. C'est ce retour d'information. Ah zut, donc là, l'équilibre n'était pas parfait. Bon, qu'est-ce qu'il faut que je rectifie pour trouver l'équilibre ? Dans les séances de neurofeedback, c'est bien ça, on va renvoyer des petits retours au cerveau sur son fonctionnement.
Ouais, le cerveau, en fait, il est hyper curieux. Et il aime, il apprécie de se nourrir de nouveautés et du coup de remettre en action, de réactiver des cheminements et pour compléter sa structure
et donner du sens
et sa densité. Et du coup, le neurofeedback, dans la mesure où il lui apporte une façon de travailler un peu nouvelle en lui communiquant des informations précises sur son activité, s'appuie aussi sur cette recherche permanente de nouveaux apprentissages que le cerveau met en action de façon quasi permanente au fil de nos journées et dans l'exercice au quotidien de notre vie sur cette belle planète.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour autant, il n'y a pas un modèle à suivre, comme on l'a dit. Des cerveaux, il y en a autant que d'individus qui fonctionnent tous de façon unique. À chaque instant T, ils sont dans une configuration unique. Donc, on n'a pas un modèle à suivre qui serait le bon modèle de fonctionnement du cerveau. Et selon ce modèle, on pourrait donner des feedbacks, c'est-à-dire des retours. Ça ne fonctionne pas vraiment comme ça.
Peut-être que ça serait intéressant d'expliquer...
Le déroulement d'une séance.
Le déroulement d'une séance. Mais peut-être qu'avant d'expliquer le déroulement d'une séance, il serait intéressant d'expliquer comment fonctionne de façon précise le cerveau. Alors, en 1875, Richard Caton découvre que le cerveau, quand il est en fonctionnement, c'est-à-dire en permanence, génère des flux électriques. Et puis un peu plus tard, en 1924, il y a un chercheur qui s'appelle Hans Berger qui identifie que cette activité électrique est plus ou moins importante et fluctuante, plus ou moins dense, est soutenue, et que du coup elle révèle d'un état de sommeil, d'un état d'éveil.
D'un état de conscience différent, finalement.
Alors, d'un état inconscient, d'un état subconscient et d'un état conscient.
C'est bien ça, c'est des états différents de conscience. Hein.
Et donc, plus le cerveau accède à des fonctions élevées, plus l'activité augmente en rythme et plus la fréquence en hertz augmente.
D'accord, très bien. Donc ça, c'est ce que tu m'avais expliqué et j'ai trouvé ça assez intéressant. Donc on va aller des fréquences delta, qui sont les fréquences du sommeil profond et également de l'inconscient. Donc tout ce qui va se jouer en nous à des niveaux inconscients, peut-être parce que justement ça fait trop mal, c'est trop douloureux, donc ça ne monte pas jusqu'à notre conscience. Tout ça va se jouer sur des très basses fréquences. Après, on va monter dans les fréquences alpha, qui sont les fréquences de relaxation légère, de détente, etc. Ensuite, un peu plus haut, on a les fréquences bêta, qui sont les fréquences de l'état de conscience ordinaire qu'on utilise pour toutes nos tâches quotidiennes simples. Et puis, on va monter ensuite jusqu'à des hauts niveaux de conscience, dans les ondes gamma, où là, on est dans notre plein potentiel d'attention, de concentration. Vous pouvez imaginer un physicien quantique en train de résoudre une équation complexe. Et bien là,
ouais,
il est
totalement... de la relativité, nous
là on a besoin
on a vraiment besoin de capter toute notre attention. Je vois que tu maîtrises pas mal le sujet sur les fréquences cérébrales.
Ben, je trouve ça très intéressant, puis tu m'as enrichi de toutes ces connaissances, parce qu'effectivement aujourd'hui on parle beaucoup de la conscience et de développer notre conscience, etc. Donc là on peut le voir de façon très scientifique par ces électroencéphalogrammes qui nous montrent bien dans quelle gamme de fréquences est notre cerveau à tel ou tel moment.
Et donc ça, c'est très l'idée, c'est que quand Hans Berger, ce chercheur, a mis au point un matériel de mesure qui a permis d'identifier qu'effectivement, plus l'activité du cerveau était soutenue, plus les fréquences étaient élevées, il a permis de classer ces fréquences par bande de fréquences, comme tu viens de l'évoquer, et d'identifier aussi les difficultés associées et une valeur moyenne de fonctionnement dans ces fréquences. Et de pouvoir indiquer si un cerveau était dans une moyenne de fonctionnement apaisée ou pas apaisée. Mmh. Et du coup, en 58, il y a un chercheur dans l'université de Chicago qui s'appelle Joey Camilla et qui a mis au point le premier matériel de neurofeedback. Et tu évoquais les ondes alpha tout à l'heure, qui sont les ondes de la relaxation pure. Et il a adossé un dispositif informatique à des capteurs de l'activité encéphalographique et demandé aux personnes qui se sont prêtées à l'expérience de s'apaiser au mieux pour pouvoir se positionner en 8-12 Hz. C'est un peu la fréquence transitoire qu'il y a entre l'éveil et le sommeil et l'éveil, où je te donne l'exemple, où le matin, quand je ne sais pas si tu bois du café ou du thé, mais où tu mélanges ta cuillère de café dans ta tasse, dans un grand état de béatitude, avec une attention portée sur pas grand-chose, c'est-à-dire quasiment rien.
Ce que l'on appelle être dans le pâté, communément.
Voilà.
Et ça peut être, et bien, sachez que vous êtes dans un état alpha. C'est plus poétique.
Et du coup, lorsque les personnes arrivaient à se détendre de façon optimisée, il y avait un signal qui se manifestait de façon auditive et qui leur indiquait que c'est bon, vous y êtes. Et à force de répétition, les personnes qui se sont prêtes à l'expérience se sont affinées de plus en plus pour atteindre de façon quasiment systématique cette bande de fréquence. Et lorsqu'il a arrêté, ces personnes étaient en mesure et capables de reproduire ce positionnement en fréquence hors du champ des séances. Et c'est là qu'on a dit, ça fonctionne, le cerveau le mémorise, continuons.
Alors, est-ce que ce que tu veux dire, c'est que l'objectif serait d'être le plus souvent dans cet état dans le pâté ?
Non.
Non, je plaisante. Dans cet état de détente et de relaxation, ça serait ça l'idée ?
Ça pourrait être bien, mais le seul souci, c'est que si on était uniquement dans cette bande de fréquence, on ne pourrait pas accéder à des fonctions du cerveau qui nous sont utiles quand on a besoin de se concentrer. Mm-hmm. Ça peut accompagner de la détente, mais se positionner en permanence dans cette bande de fréquence, ce serait
renoncer à un certain nombre de possibilités qu'offre la vie.
Il y a la capacité d'interagir avec le monde extérieur, ce qui est quand même bien agréable, mmh, et parfois très utile, voire indispensable.
Donc, totalement. Donc du coup, l'idée, ça. C'est pas simplement d'apprendre au cerveau à se détendre. C'est pas ça. C'est pas l'idée. Alors, on va peut-être revenir quand même sur le fonctionnement d'une séance pour qu'on comprenne bien comment ça se passe. Je vais décrire ce que j'ai vécu avec toi, du coup. Tu m'as invité à m'installer dans un fauteuil bien confortable. Tu as installé des petites électrodes à différents endroits de mon crâne, de ma boîte crânienne, voilà, pour pouvoir capter donc les influx électriques de mon cerveau. Ces petites électrodes étant reliées à ton ordinateur et à un logiciel spécifique qui, du coup, enregistrait le fonctionnement de mon cerveau. Et j'avais sur les oreilles un casque dans lequel j'étais immergée dans un univers sonore très détendant, très agréable, avec de très belles musiques, qui, à certains moments, étaient interrompues, mais avec des micro-coupures à peine perceptibles pour mon oreille, c'est-à-dire que ça ne dérangeait pas le fait que je puisse apprécier la musique, mais par contre, je pouvais entendre des petites micro-coupures, et ces micro-coupures-là sont ce fameux feedback qui est envoyé au cerveau. Voilà. Donc en fait, maintenant, tu vas expliquer un petit peu à quoi correspondent ces micro-coupures dans la musique, puisque ton logiciel lui détecte certains fonctionnements de mon cerveau, et à certains moments, il dit « Ah, on envoie une micro-coupure ». Alors, à quoi ça correspond? Quand est-ce qu'on reçoit cette micro-coupure dans la musique et comment le cerveau, lui, interprète que « Ah, tiens, ça veut dire que peut-être il faut que je fasse quelque chose ».
Donc, l'idée, c'est une séance de neurofeedback dure 33 minutes 30. Il y a au préalable un échange qui se fait avec les personnes que j'accompagne et que je reçois pour identifier l'état du moment. On fait une mesure initiale aussi pour sur l'activité du cerveau qui va durer une trentaine de secondes et une mesure finale qui va permettre de déterminer dans quel contexte se trouve la personne et dans lequel est-ce qu'il est judicieux de mettre en place et d'adapter comme protocole à ce moment-là. Pendant une séance de non-feedback, le système, au travers des capteurs que tu viens de décrire, qui ne sont que des capteurs, je tiens à le préciser, parce que souvent quand on
oui, parle ça de n'envoie capteurs, pas d'électricité, rassurez-vous.
Ça n'envoie aucun courant électrique, mesure une activité hertzienne, c'est-à-dire des ondulations au niveau de l'activité cérébrale. Et le système enregistre 256 mesures à la seconde de l'activité du cerveau. Ces 256 mesures à la seconde permettent d'établir une moyenne de fonctionnement du cerveau pendant cette première seconde, et cette moyenne va être évaluée en permanence en fonction de la fluctuation de l'activité du cerveau, puisque, comme on le disait tout à l'heure, le cerveau est une structure dynamique et que cette moyenne va fluctuer en permanence. Dès que le système va identifier une anomalie d'amplitude dans une fréquence, il va générer un retour d'information, donc le feedback, au travers d'une micro-coupure du son. Mmh. Cette micro-coupure, elle intervient dans un temps de réponse qui est de l'ordre de 2 à 200 millisecondes, c'est-à-dire très rapidement.
Ça va très vite.
Et du coup, le cerveau associe cette coupure immédiatement à cette anomalie d'amplitude. Mmh. Dès qu'il y a une anomalie d'amplitude, c'est-à-dire que il y a trop d'intensité dans une fréquence, il va envoyer ce signal. Et le cerveau, donc, qui reçoit ce signal dans un temps de retour et de réponse qui est de l'ordre de 2 à 200 millisecondes, il engage à ce moment-là, un processus qui s'appelle une réponse d'orientation.
D'accord.
Alors, je te donne un exemple qui n'est pas forcément du quotidien, mais en tout cas, il est précis, il est assez flagrant.
Super.
J'aimais le postulat que tu te promènes dans la savane africaine. Depuis une demi-journée, tu as aperçu des zèbres, des girafes, les couleurs sont ocre, tu es dans un environnement détendant. Et puis, avançant dans cette démarche de plénitude, surgit derrière un buisson en face de toi et à 50 mètres un lion. Mmh. La première réponse d'orientation qui est souvent pratiquée, ça va être augmentation de l'afflux sanguin. Mmh. Adrénaline, mmh. Okay. Le rythme cardiaque augmente, les muscles sont chauds et je me mets à courir. Mmh. Sauf que le lion est à 50 mètres et que là, a priori, je vais faire le déjeuner du lion. La deuxième possibilité, qui elle va être engagée pendant une séance de neurofeedback, c'est une réponse d'orientation qui va être une réponse de relaxation. En clair, je suis conscient de la situation. Pour affronter avec la plus grande sérénité, la plus grande perspicacité et le moins de risque possible de la situation, l'activité du métabolisme descend légèrement et l'intensité d'activité dans cette fréquence identifiée va se temporiser. d'accord, et diminuant toutes les ressources qui peuvent être pleinement utilisées par le cerveau plutôt que d'être utilisées dans un mouvement de panique, vont être utilisées pour gérer la situation le plus sereinement possible.
Oui, d'accord.
Et donc, je sais pas, j'ai un gros caillou à côté de moi, après il y a un arbre, j'identifie l'environnement, je sais que si je monte sur le caillou, sur l'arbre, je arrive sur un autre rocher qui me met loin du lion, et là, sereinement, j'envisage une possibilité de réponse qui va me permettre de rester en vie.
Tout à fait.
Voilà. Et d'affronter la situation. Et dans une séance de non-feedback, c'est ce type de réponse d'orientation qui est une réponse de relaxation qui va être engagée par le cerveau. L'intensité diminue dans cette fréquence. Du coup, le cerveau réorganise d'autres connexions neuronales plus apaisées. Et à force de répétition, l'activité cérébrale se temporise.
D'accord. Très bien.
Pour accéder à un mieux-être qui, à force de répétition au travers des séances, puisque le non-feedback est une technique d'entraînement, va pouvoir structurer et organiser des connexions qui vont, par couches successives, d'abord organiser un socle un peu plus solide et plus temporisé et harmonieux. Et au fur et à mesure des séances, le cerveau va finir par mémoriser ces connexions neuronales pour être en capacité de le répéter hors du champ des séances.
D'accord, ok, très bien. Donc ça me semble assez clair, c'est-à-dire que on va favoriser la résolution, on va dire, sereine de nos problématiques et apaisée et dans un état dont on a peu l'habitude parce qu'on aurait plutôt tendance à paniquer et à réagir par justement une activité plus soutenue dans les moments où on est face à un défi ou un...
Voilà, l'idée c'est d'amener de la tempérance dans l'activité.
D'amener de la tempérance.
Et de faire en sorte que, en fait... Qu'il y ait moins de concentration de l'activité sur des problématiques liées à un trouble. Alors le trouble, ça peut être de la panique, ça peut être une anxiété, ça peut être d'autres difficultés. Et en fait, toutes ces difficultés se stockent plutôt dans les basses fréquences au niveau du cerveau.
Oui, c'est ça. Donc en fait, moi, je vais utiliser peut-être d'autres mots pour parler de la même chose, c'est-à-dire que ce que bien des gens appellent le mental, ce mental qui a tendance à tourner en boucle sur des problèmes, sur des problématiques et qui nous ramène toujours les mêmes pensées, les mêmes... ce serait ça hein, dont tu parles, ce serait ces fonctionnements obsessionnels, voilà, c'est tout à fait ça, obsessionnels qui tournent en boucle et qui nous amènent pas de solution en fait. Là on va essayer de les désamorcer, ça va se faire en fait par une détente à cet endroit là et le cerveau va avoir une chance de trouver une autre solution.
Voilà, l'idée c'est qu'on
de tourner en boucle.
Exactement.
Vous êtes actuellement en état de profonde détente. Et votre cerveau plane dans les ondes alpha. Cette musique est utilisée au cours des séances de neurofeedback par le praticien Dominique Huette. Il est avec nous justement pour parler de l'autorégulation du cerveau dans les enfants du Nouveau Monde.
Alors comment toi t'as découvert le neurofeedback, Dominique ?
Et alors en fait, c'est une histoire intéressante, mais c'est un changement de vie. J'ai commencé ma carrière professionnelle en reprenant et en dressant des sociétés en difficulté. Et j'ai ensuite, en m'appuyant sur toutes les ressources que j'avais déployées, c'est-à-dire travailler beaucoup sur la cohésion de groupe, sur l'humain, ouvert un cabinet de coaching opérationnel qui était destiné à accompagner des dirigeants, des cadres et leurs équipes pour accéder à un meilleur niveau de performance dans leur travail et un équilibre personnel retrouvé, et que l'équilibre personnel retrouvé leur permettait d'exploiter pleinement et d'être pleinement présent dans leur travail. Et en 2010, j'avais rencontré Daniel Wagner, qui est psychothérapeute et qui a découvert ce système de neurofeedback et qui l'a introduit en 2004 en Europe. Et j'avais fait une séance comme ça pour voir comment ça fonctionnait et connu un peu les mêmes sensations que celles que tu as rencontrées à l'occasion de la séance qu'on a faite ensemble. Et en 2012, j'accompagnais un dirigeant et en pleine mission, en fait, il piétinait, ça avançait pas. Et j'ai senti qu'émergeait chez lui beaucoup de tension et qu'il était dans l'empressement. J'ai subtilement proposé à ce dirigeant d'entreprise de l'orienter vers du neurofeedback et il est revenu au bout de quelques séances. Il était transfiguré et on a conclu cette mission sur un succès exceptionnel. Et il avait enfin retrouvé, après l'apparition de ses premiers phénomènes de burn-out, un équilibre parfait qui lui a permis de garantir un excellent et un très très bon résultat de cette mission. Et ça, c'était en 2012. Et du coup, je me suis formé depuis 2014. J'exerce comme praticien et j'interviens à la fois auprès des particuliers et aussi auprès des professionnels, des sportifs en recherche de performance.
Et du coup, tu as laissé le public des entreprises et des entrepreneurs de côté ou tu continues à travailler avec
eux ? Non, je continue à les accompagner, mais pas là, sur la pratique du neurofeedback.
D'accord.
Et beaucoup moins sur, sur de la performance et de la recherche opérationnelle.
Ok, très bien. Donc, c'est vrai qu'apparemment, moi je lisais un article là, dans Bio Info, tu vois, le petit magazine là, qu'on peut avoir dans les magasins bio, sur le neurofeedback, et tu vois le titre c'est « Plus performant, sans stress, avec le neurofeedback ». On parle vraiment de cette recherche de performance, hein, comme si le neurofeedback était vraiment un outil au service d'une meilleure performance, quel que soit le domaine, domaine sportif.
En fait, moi je le décline sous trois perspectives, sous deux perspectives distinctes. C'est, la première, c'est d'améliorer le fonctionnement du cerveau dans des problématiques typiques et des troubles qu'on a évoqués tout à l'heure. Et ça, c'est plutôt destiné aux personnes et aux particuliers que j'accompagne. Et après, il y a un deuxième phénomène, enfin une deuxième sphère, qui est effectivement la sphère professionnelle, où là, il y a de la recherche de performance. Et la sphère et le monde sportif, où l'objectif est d'atteindre ce qu'on appelle le flow. Et le flow, c'est un état mental qui n'est pas perturbé ou pollué par des préoccupations personnelles qui empêcheraient par exemple un descendeur en ski alpin d'accéder à son niveau de performance. Et pour exemple, le non-feedback est très utilisé et a été très utilisé depuis très longtemps dans le milieu sportif. Mary Pierce a suivi des entraînements par un neurofeedback. Hermann Mayer, qui est le champion de ski autrichien, a suivi des séances de neurofeedback. Et il y a pas mal de clubs de football qui utilisent le neurofeedback, qui est quand même des salles dédiées et qui viennent en complément de tout le travail de coaching qui leur est apporté, le travail nutritionnel, pour être, au plein de leur performance. Donc il y a vraiment deux parties distinctes, et effectivement la recherche de performance pour les professionnels et les sportifs, mais aussi le traitement de troubles plus psychiques ou pour certains psychopathologiques dans le milieu dans l'environnement des particuliers.
Qui est ce qui occasionne le stress finalement ? C'est tous ces troubles-là qui nous occasionnent du stress, c'est tous ces troubles émotionnels, etc.
Alors, ils génèrent du stress, mais le stress peut aussi générer d'autres troubles qui eux-mêmes vont venir, comme le stress peut engendrer un burn-out, mais oui, toutes les gens qui sont stressés ne sont pas en burn-out, heureusement pour eux.
Est-ce que tu veux nous dire comment on te trouve alors pour les gens que ça intéresserait de découvrir le neurofeedback?
Oui, bien sûr. Alors, il y a trois possibilités. La première, c'est d'aller sur mon site internet qui s'appelle Neurofeedback Gar.
D'accord.
La deuxième, c'est d'aller sur ma page Facebook qui porte le même nom.
Neurofeedback, donc feedback, c'est F2EDBACK.
Voilà, Gar comme le Gar, comme le département, bien sûr. Et mon cabinet donc, est implanté à Nîmes. Je suis place Birakem. On peut aussi me joindre par téléphone. Et mon téléphone, c'est le 06 14 70 17 84. Et c'est vrai que je privilégie le contact verbal plutôt que les envois de mails.
Oui.
Parce que ça permet de mettre de l'humain
et
d'identifier. Et que la personne au bout du fil puisse savoir et percevoir de qui il s'agit et d'établir un lien.
Très bien, bah écoute, merci beaucoup pour cet entretien, Dominique Huette. Et donc, je rappelle, si vous voulez en savoir plus, c'est neurofeedback-gar.com. Et puis, vous avez donc le numéro que vous pourrez réécouter dans l'émission, que vous trouverez à la fois sur le site des radios locales que vous écoutez et également sur mon site au service du vivant.info. Merci, Dominique.
Merci à toi, Céline.
À la prochaine.
À bientôt.
Salut. Dancing dream of all eternity. The sun was shimmering in the morning light, and dancing off the tombs of far away. The night held music so sweet, so long. And there we lay until the break of day. That morning at the onward call, a camel's brightened up a horse's fall. The sun was rising in the eastern sky, just as we set out to the desert's cry. We
far away. What is this home where we cannot reside? What is this life that pulls me onward? My heart is full when you are by my side.
Les enfants du Nouveau Monde, c'est les 2e et 4e mercredis du mois à 19h sur Radio Bartas. Et en attendant la prochaine, retrouvez et téléchargez toutes mes interviews sur le site web au service du vivant.info.